7h, bon matin tout le monde. C'est Louis-André Jalbert qui est en studio avec nous.
C'est moi.
Ça va bien?
Ça va bien, toi.
T'es avec nous pour le bulletin local et régional, juste avant avec le beau match à sens unique qu'on a eu hier avec le Lightning du Tampa Bay. Est-ce qu'on espère une victoire semblable du Canadien ce soir?
C'est impossible que le Canadien sorte un lapin comme ça avec son chapeau. Si le Canadien fait ça à peu près, là, ben, ça va être peut-être un 3-0, 4-0. Mm-hmm. Là. Mais je m'avance pas sur les prédictions, Francis. Okay. Moi, de mon côté, tu sais comment je fonctionne depuis le début des séries, puis ça me porte chance. Donc,
Ben, écoute, moi, j'ai fait une petite remarque avec les demi-finales.
Vas-y.
Quand les Islanders gagnent, le Golden Knight gagne le lendemain.
OK.
Et quand le Lightning gagne, le Canadien gagne le lendemain.
OK, j'aime ça.
Donc là, avec une victoire du Lightning 8-0...
On peut s'attendre à de grandes choses ce soir.
Exactement.
Selon ta théorie.
Selon Nostra Francis, on peut s'attendre à quelque chose de beau ce soir.
Moi, c'est Nostra, c'est Nostra Dalou quand c'est je fais mes prédictions, mais je veux plus jouer à ce jeu-là. Là, je suis trop stressé. Je te le dis, je fais de l'anxiété là, chez nous. Là, j'ai hâte au prochain game. Là, on a perdu la dernière partie en prolongation. Puis je le dis, j'ai passé deux mauvaises journées. À l'intérieur de moi, j'ai une boule. Puis... je pense que j'ai jamais eu autant de stress dans ma vie au niveau du hockey. Fait que je pense que c'est la même chose pour les fans du Canadien. On est optimiste. On espère que. On sait jamais comment ça peut virer là, d'un jour à l'autre. Le Canadien, c'est tout le temps des montagnes russes. Donc on est comme surpris que ça se maintient pendant tant de parties. Puis même quand on perd, c'est pas une défaite désastreuse. Ouais. Là. Tu sais, 2-1 en prolongation, c'est Nicolas Roy qui a marqué. C'est pas désastreux. Donc j'ai bien hâte de voir ça ce soir. Mais. Oui, commence à voir les papillons, effectivement.
J'ai quasiment hâte de te voir quand ils vont se rendre en finale.
Ouf. Ah mon Dieu, dis pas ça. Dis pas ça, jinx-nous pas. En bon québécois.
Pour poursuivre avec l'actualité locale, on commence avec un conflit entre voisins. Une résidente de Bouchette dénonce l'inaction de la municipalité.
Oui, des résidents du chemin Lacroix à Bouchette déplorent de ne pas pouvoir jouir de leur propriété comme ils le souhaiteraient en raison des activités commerciales qui se déroulent chez leurs voisins. Au début du mois d'avril, Françoise Laprade, qui vit sur ce chemin, a contacté le service de nouvelles de CAGA-FM pour tenter de dénouer l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis juin 2020. Elle affirme avoir entamé des démarches auprès de la municipalité de Bouchette, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ainsi qu'auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle espérait ainsi faire cesser les activités commerciales de son voisin et retrouver une certaine quiétude, mais sans succès. La voici qui nous énumère les inconvénients.
7 jours par semaine, les gros camions ils partent à 6h le matin. Il fait des tanks septiques, puis tout le stock qui vient mener ça ici dans son dépotoir. Je sais que c'est nous autres qui passons pour des pas fins là-dedans, mais je vais te dire, ben franchement, si les conseillers avaient mis leurs culottes, on ne sait pas où ce qu'on est aujourd'hui. On n'a pas d'argent, mais on va être obligé de s'endetter pour prendre un avocat pour qu'on puisse avoir une tranquillité. Moi, je comprends vraiment pas ce que les conseillers attendent pour mettre leurs culottes.
Madame Laprade mentionne avoir fait une crise de cœur en novembre dernier en raison du stress provoqué par cette situation. Elle indique que le maire de la municipalité, Gilles Bastien, l'a accompagnée dans ce dossier, mais qu'il n'a pu régler le dossier en raison de l'inaction de la municipalité et des autres membres du conseil municipal. Pour sa part, le maire Bastien est d'avis que les activités commerciales qui ont un cours sur le chemin Lacroix sont illégales. On écoute Gilles Bastien.
François Laprade, on est maire de Rivière. Depuis bientôt un an, ils ont un garage industriel en face de chez eux. Il y a l'entreposage de bateaux. Puis malgré qu'en novembre dernier, il y a eu une lettre d'envoyée de la part de l'inspecteur municipal pour demander à l'entrepreneur de cesser ces activités-là, ben, ça continue.
Selon nos interprétations, c'est des activités qui sont illégales.
Le maire suppléant de Bouchette, Michel Lamoureux, indique que le dossier suit son cours à la municipalité. Il mentionne que les membres du conseil doivent s'assurer que les droits de chacune des personnes concernées par cette affaire sont respectés. D'ailleurs, une résolution a été adoptée au début du mois afin de demander un avis juridique afin de déterminer si l'entrepreneur en question est en infraction ou non. L'entrepreneur visé par les plaintes n'a pas retourné l'appel de CHGA-FM.
Pour continuer la détresse psychologique est bien présente dans la vallée de la Gatineau.
Oui, les derniers mois qui ont été durement marqués par la crise sanitaire de la COVID-19 ont entraîné avec eux leur lot de conséquences en matière de santé mentale, notamment. Avec la hausse des cours en ligne et de l'isolement social, celle des jeunes en a été, oui, particulièrement affectée. La directrice générale de Suicide des Tours, Carole Saint-Amour, mentionne avoir remarqué une forte baisse en ce qui a trait à la confiance envers leur image corporelle malmenée par les réseaux sociaux, ainsi qu'une forte hausse des tendances d'automutilation. Néanmoins, si l'organisme a mis en place plusieurs ateliers de prévention sur ces sujets, Mme Saint-Amour dit ne pas avoir constaté une hausse des appels logés auprès de Suicide des Tours.
Je trouve pas ça normal. J'espère que c'est parce que les gens ont des bons réseaux alentour d'eux autres. Mais ce que j'entends à travers les branches, c'est que souvent les gens vont dire « Ah, ben mon problème n'est pas assez grave, j'appellerai pas ». Moi, ce que j'ai à dire à ces gens-là, bien, premièrement, il n'y a pas de petits ou de gros problèmes. Là, tu sais, comme quand ça ne va pas, on appelle. Si on est inquiète pour un proche, on appelle. Puis, on n'attend pas non plus qu'on ait des idées suicidaires. Quand ça commence à pas bien aller, appelez-nous.
Madame Saint-Amour rappelle l'importance d'appeler l'organisme ou toute autre ressource comme la ligne des fonds santé 811 si un besoin de parler se fait ressentir. Du côté de Voix et solidarité des aidants naturels de la vallée de la Gatineau, la directrice de l'organisme Nancy Baudrian mentionne également avoir observé une hausse de la détresse psychologique tant chez les aidants naturels que chez les aînés.
Je vous dirais qu'il y a eu beaucoup d'appels avec des propos suicidaires. Il y a eu beaucoup d'appels, mettons, là, où les gens... quand je parle de propos suicidaires, c'était surtout envers la personne fragilisée et envers aussi eux-mêmes. Mais je vous dirais que la majorité, c'était envers la personne fragilisée, prouvant justement là, la fatigue et la détresse là, de ces proches aidants-là.
Pour aider à repérer la détresse psychologique chez les aînés et les proches aidants, Mme Baudrian note que des appels d'amitié à domicile ont été mis en place. Elle invite également les aidants naturels qui en ressentent le besoin à contacter la ligne Info Aidant au 1-855-352-7784.
Et en terminant, une année quand même positive sous le signe de la résilience pour Jeunesse sans frontières, Vallée de la Gatineau.
Oui, effectivement, Francis, l'organisme Jeunesse sans frontières, Vallée de la Gatineau trace un portrait positif de sa dernière année malgré les tribulations causées par la COVID-19. Lors de son bilan annuel, l'organisme a souligné l'incroyable résilience des jeunes, l'adaptation des intervenants et la présence des partenaires. Malgré la pandémie, Jeunesse sans frontières a offert des services 37 soirs de plus que l'année dernière pour un total de 195 jours d'ouverture. En raison des activités virtuelles, une faible baisse du taux de participation a été remarquée. Le bilan positif se poursuit également pour l'aspect financier. L'organisme se porte bien, même que l'année s'est terminée avec un surplus budgétaire. Mélanie Vachon, directrice de Jeunesse sans frontières, explique à quoi servira ce surplus.
On a fini avec des surplus cette année. On a des montants qui ont été affectés, entre autres, à la rénovation du sous-sol, à l'aménagement de la cour et à l'achat d'un véhicule 7 ou 8 passagers pour transporter les jeunes vers les activités. L'enjeu d'accessibilité à la maison des jeunes, ça fait plusieurs années qu'on l'a. Là, cette année, on a décidé d'adresser le problème puis de travailler à l'achat d'un véhicule.
Et pardonnez-moi, c'était Mélissa Vachon et non Mélanie Vachon. Donc, désolé, Mélissa. Avec l'objectif de répondre aux besoins des jeunes, la prochaine année s'annonce aussi enrichissante. Le projet de l'Académie de boxe, instauré en mars dernier, se poursuit et des travaux de rénovation au sous-sol de la maison seront entrepris notamment. Jeunesse sans frontières Vallée de la Gatineau travaille actuellement sur deux nouveaux projets en collaboration avec la Maison de la famille de Centre de pédiatrie sociale Vallée de la Gatineau et le milieu scolaire. Mélissa Vachon précise.
On travaille en collaboration avec Maison de la famille Centre de pédiatrie sociale pour un nouveau projet qui s'en vient en plein air, là, qui s'appelle Sort dehors. L'année dernière, on avait eu du financement pour du matériel de plein air. Fait que c'est un virage que la Maison de jeunes avait commencé à prendre. L'objectif, c'est toujours de les ancrer dans leur communauté. Et quoi de mieux que de les connecter au plein air dans la vallée de la Gatineau? On veut être plus ancrés dans le milieu scolaire. D'ailleurs, on a un financement là, qui est arrivé au niveau de la santé publique pour un intervenant en prévention de dépendance qui va être présent entre les murs de l'école à l'automne.
L'équipe s'est agrandie avec l'arrivée d'un nouvel administrateur jeunesse, deux intervenants et une agente administrative. De plus, l'organisme est présentement en processus d'embauche pour un poste à la coordination.
Merci Louis-André, on se retrouve dans une quinzaine de minutes
pour
parler du bulletin déjà de 8 heures.
Déjà.
Mon Dieu que ça passe vite.
À tantôt. Bye.